moi, c'était une question par rapport à la notion de handicap invisible. Là, on discute autour d'une table et vraiment, ça ne se voit pas du tout que vous avez, comme vous dites, autisme d'Asperger.
Ouais.
Voilà. Donc, ça ne se voit pas du tout. Est-ce que vous auriez des commentaires à faire à ce sujet sur le fait que ce soit invisible ?
Donc, effectivement, moi, cette notion de handicap invisible, c'est, on va dire, ce qui m'handicape le plus aujourd'hui. Parce que, bon, l'autisme, pour moi, personnellement, bon, j'ai 27 ans, c'est pas que j'en... que des fois, il me joue pas des tours, mon autisme, mais disons que, grosso modo, j'arrive à le gérer et en faire une force. Par contre, effectivement, cette notion de handicap invisible, c'est très compliqué à... Vu que le handicap est invisible, justement, il m'arrive régulièrement de faire des bourdes sociales, on va dire. Dans un magasin, par exemple, aller faire mes courses, c'est quelque chose de très difficile, parce qu'il y a souvent trop de monde, trop de bruit, trop de lumière, trop de tout. Donc c'est parfois très difficile à gérer, parce que quand je passe dans une file prioritaire, souvent il arrive que les gens râlent parce que bah, soi-disant j'ai pas de handicap. Alors quand j'oublie ma carte d'invalidité, c'est encore pire, parce que il faut encore faire tout un speech pour expliquer que oui, je suis bénéficiaire de la caisse prioritaire et voilà. Donc effectivement, c'est peut-être cette notion de handicap invisible qui me pose le plus de problèmes au quotidien.
Est-ce que le diagnostic a été facile à poser ?
Alors non, pas pour moi. Pas pour moi, j'ai été diagnostiquée, j'avais 17 ans. Pourtant, on a vu des difficultés. J'avais 2 ou 3 ans déjà. Donc, j'ai eu mon premier suivi psy, j'avais 3 ans. Donc pendant 15 ans, j'ai vu toute une ribambelle de psy, sans que ce soit particulièrement ressorti, quoi.
Et du coup, une fois que le diagnostic a été posé, ça a été plus facile ? Ça vous a facilité la vie ?
Oui et non, parce que d'un côté, effectivement, ça a été un certain soulagement, parce que enfin, je pouvais comprendre les difficultés que j'avais eues déjà toute petite, tout au long de ma vie. Il y a une manif, c'est dur de se concentrer.
Oui, pour nous aussi, c'est dur.
Donc oui, d'un côté, le diagnostic, c'est bien, parce qu'effectivement, c'est un soulagement, ça permet de comprendre certaines difficultés. Les régler, c'est un bien grand mot, parce que l'autisme, on n'en guérit pas. Donc voilà, mais disons, apprendre à mieux les gérer et être plus serein par rapport à ça. Sur ce point-là, effectivement, c'est positif. Après, sur le point suivi et prise en charge, entre guillemets, parce que j'ai bien aimé tout à l'heure le point de vue de Clément en disant que... pas forcément un truc, une charge. Au contraire, ça peut être beaucoup moins lourd, on va dire, que si les choses sont bien faites, ça peut être beaucoup moins lourd que ce qui existe actuellement, qui est très peu adapté. Et donc j'en viens au point négatif, c'est que justement au niveau prise en charge, on frise le zéro absolu. C'est-à-dire que moi, on m'a dit, bah, comme j'avais 17 ans, on m'a dit, bah, vous n'êtes plus une enfant, donc les prises en charge pour les enfants, c'est plus trop votre truc. Pour les adultes, il n'existe pas grand-chose. Donc en gros, effectivement, bah, démerdez-vous, essayez de contacter les associations autour de vous, sachant qu'à l'époque, j'habitais dans un petit village paumé. Voilà. Donc bah, comme a dit Clément, mon camarade, tout à l'heure, je me suis retrouvée en hôpital psychiatrique. Comme beaucoup d'autistes qui n'ont pas de solution de suivi et qui finissent par sombrer dans la dépression ou se renferment totalement, quoi. Et donc, voilà.
Et est-ce que vous auriez des conseils ou des remarques pour les personnes qui accompagnent les enfants autistes ou les jeunes adultes, mais je ne sais pas, des remarques qui vous viennent de choses qui vous ont manqué dans votre parcours avec les personnes qui vous ont accompagné, enfin.
Je dirais effectivement cette notion de compagnonnage, de confiance, être acteur. Alors c'est bien de guider la personne autiste, c'est bien de lui donner des médicaments quand ça part trop en couille. Encore faut-il ne pas donner trop de médicaments, parce que sinon, non seulement ça part plus en couille, mais la personne autiste, elle est tellement shootée qu'elle est bonne à rien. C'est bien effectivement d'avoir toutes ces thérapeutiques psychomédicales, on va dire. Mais c'est bien aussi d'écouter la personne, de prendre le temps de l'écouter, de lui faire confiance, de lui donner déjà un moyen de communication. Parce que un enfant autiste qui ne parle pas, ou un adulte d'ailleurs qui ne parle pas ou peu, il aura des réactions X ou Y, mais ça peut être mal interprété. Donc déjà, lui donner un moyen de communication avec vous, prendre le temps d'interpréter et d'interpréter au mieux ce qu'elle peut vous transmettre. Faire appel, même si vous êtes super professionnel avec plein de diplômes, machin et tout, faire appel à des personnes, des associations ou des personnes autistes qui, eux, ont un savoir-faire justement pour ce décodage. Vous pouvez avoir des milliards de diplômes, les meilleurs de la Terre. C'est pas pour ça que vous êtes à la place de ces enfants et que vous avez la science infuse sur... Alors, je dis pas que moi, par exemple, ou la compagnie des TED, on a la science infuse non plus, mais je pense que on a... Enfin, pas la compagnie des TED, Atypique et compagnie. Je pense qu'on a un savoir-faire peut-être plus... J'irais peut-être pas jusqu'à dire jusqu'à une expertise, mais presque. Moi, on m'a souvent dit que j'avais un savoir-faire à ce niveau-là bien plus élevé que la moyenne des psys. Alors après, à tort ou à raison, j'en sais rien. Mais ouais, pas hésiter à sortir des clous, d'expérimenter. Arrêtez de vouloir absolument avoir une norme. Mon diplôme, il m'a dit ça comme ça, alors c'est forcément comme ça. Non, enlevez les œillères et allez explorer à droite, à gauche, même les choses pas très conventionnelles, les associations, les personnes autistes. Dans vos patients, vous avez sûrement des personnes autistes, un peu comme moi, qui ont l'air de bien se débrouiller, mais en fait qui sont complètement paumées à certains moments. Vous pouvez inverser les rôles quelque part. Eux aussi, à un moment donné, ils peuvent jouer le psy... Ils vont pas vous louper là-dessus, hein. Voilà. Mais il faut accepter de se remettre en question, hein. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils aiment dans la prise en charge, qu'est-ce qu'ils aiment pas, qu'est-ce qu'ils voudraient qu'on change, qu'on remette en question, machin et tout. Vous-même remettez-vous en question. C'est toujours un monde un peu bancal, l'autisme, mais c'est un monde magnifique. Je trouve que c'est un monde magnifique. Et voilà.
Auriez-vous un message à faire passer pour la reconnaissance des handicaps invisibles ?
Justement, la reconnaissance. Reconnaître déjà. Il y a une loi de 2005, si je ne m'abuse, qui admet donc que les personnes handicapées doivent être reconnues dans leur citoyenneté, l'accessibilité, leurs droits, leur éducation. Cette loi... Ok, elle existe, mais est-ce qu'elle est vraiment appliquée ? J'en doute fortement, par quelques bons samaritains peut-être, et encore. Et encore, à Grenoble, on n'est pas trop mal lotis. Après, cette loi, elle est surtout faite pour le handicap physique, mais le handicap psychique, mental, psychologique, enfin, voilà, tout... Enfin, sous ce genre de handicap qu'on ne voit pas, justement, eh ben, cette loi, elle n'est pas faite pour ça. Alors forcément, ben, on adapte, encore une fois. Hein, au niveau paperasse, c'est très compliqué. Mais voilà, effectivement, peut-être faire une clause dans cette loi pour justement ces handicaps invisibles. Je voudrais dire aussi que partir du principe que la personne handicapée, jusque-là, on part souvent du principe que la personne handicapée est d'abord handicapée, donc d'abord des difficultés, d'abord on doit l'aider. Comme a dit encore une fois Clément, il l'a déjà dit, une personne handicapée, avant d'être handicapée, elle est une personne à part entière. un citoyen de France, enfin, ici-bas, de France, d'Europe, du monde. Et je pense que c'est intéressant aussi que ce soit dans la loi ou dans la vie quotidienne d'ailleurs, surtout dans la vie quotidienne. Parce que la loi, bon, on peut bien l'écrire, hein, mais si elle n'est pas appliquée au quotidien, elle ne sert à rien. De réaffirmer ça, de réaffirmer cette place de citoyen, ce droit, c'est un droit primordial de tout être humain. Et voilà, donc je pense que la reconnaissance, elle passe par là, d'inclusion au même titre que n'importe qui, en fait. Et alors oui, c'est sûr, pour cette inclusion, il va y avoir des adaptations à faire. Dans la vie quotidienne de tout un chacun, il va y avoir des adaptations à faire. Mais si on regarde ces adaptations, elles peuvent rendre service à tout le monde. Par exemple, une rampe pour un fauteuil roulant, ça va servir pour les poussettes. Ça va servir pour les gens qui vont se casser la jambe au ski, qui seront en béquille. Parce que c'est plus facile de monter une rampe ou de prendre l'ascenseur que monter 15 marches quand on est en béquille ou quand on est avec la poussette. Pour les personnes autistes, c'est pareil. Adapter certaines méthodes d'éducation à l'école, par exemple, ça peut servir à tout le monde, à tous les autres enfants. Pas seulement parce que ouais, la différence dans une classe, machin et tout, avoir un camarade handicapé, c'est génial. Non, parce que dans une classe, les autistes ont du mal à gérer la proximité des gens. Donc, par exemple, une des choses à faire, c'est diminuer les effectifs dans les classes. Même avec un enfant, entre guillemets, normal, travailler avec une classe de 30 élèves ou une classe de 15 ou 20 élèves, ça n'a rien à voir, que ce soit pour une personne autiste ou pour une personne ordinaire, entre guillemets. Après, prendre le temps d'écouter le prof, prendre le temps d'écouter ses camarades, de réfléchir sur certaines choses, c'est des choses qui peuvent aider beaucoup les enfants autistes, mais qui peuvent aussi aider beaucoup Voilà, revenir aux pratico-pratiques. Et les maths, bon, 2 plus 2, ça, c'est ok, d'accord, c'est cool. Je sais que 2 plus 2, ça fait 4, mais dans ma vie quotidienne, à quoi ça me sert Et donc, on galère pendant des plombes, pendant 5 séances de leçons, à comprendre à quoi ça va nous servir dans la vie.
Avez-vous un message à faire passer
Pas tant, je pense que les messages sur l'humanité, le respect, la citoyenneté, je pense qu'ils ont été déjà dits et redits. C'est ça en fait, c'est se sentir à part entière et pas un espèce de déchet pauvre handicapé qui sait rien faire, qu'il faut assister tout le temps. Alors effectivement, il y a des choses à faire un peu autrement, mais c'est pas pire, c'est pas mieux, c'est juste différent en fait. Enfin, la différence, en même temps, on est tous différents. Hein. Il y en a qui ont un nez un peu tordu, qui vont dépenser des milliers dans une chirurgie esthétique. Est-ce que cette personne-là est handicapée, entre guillemets, par son nez et par son image, autant que moi, je peux être handicapée sur autre chose. Différence... Voilà, après, ça dépend comment nous, on l'accepte et puis comment les autres l'acceptent. Et le gère. Je pense qu'il ne faut pas forcément prendre le handicap comme un truc très, très compliqué. Il faut surtout le prendre comme voilà, un truc différent, prendre ça avec un peu de bon sens. Et voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, la prise en charge, c'est pas... J'ai donné des exemples tout à l'heure de prise en charge, entre guillemets, d'accessibilité qui peuvent servir à tout le monde. Donc effectivement, la charge, elle est sur nous, qui sommes obligés de nous adapter, qui devons subir la médication abusive, l'hôpital psychiatrique, le refus de confiance de la société. La charge, moi, voilà, je la ressens surtout sur moi, je la ressens pas forcément sur la société, en fait, par rapport à ça. Et moi, je veux bien faire tous les efforts du monde pour ma prise en charge, entre guillemets, pour communiquer avec les gens à peu près comme il faut, enfin, entre guillemets. Mais si les gens en face ne font pas d'efforts, ben voilà, quoi, ça ne donne pas envie d'être prise en charge.
En tout cas, on te voit comme une personne normale.
Ouais, bah c'est justement toute la complexité du handicap invisible, l'ambiguïté de effectivement, je peux avoir un langage très développé, très avancé, normal, quoi. Mais c'est vrai que dans ma vie quotidienne, j'ai beaucoup de mal à accéder à certaines choses.